Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Almeida. Aujourd'hui, nous traversons la Manche dans un sens puis dans l'autre. Nous allons aller à Londres, à Douvres, nous allons rebondir en Normandie, atterrir dans le Poitou, en Aquitaine, et tout cela au début du XIIIe siècle avec Jean Santerre.
Au cœur de l'histoire.
J'ai écouté très attentivement ce qui a été dit devant cette assemblée et en dehors. Et en écoutant ces points de vue, il est clair que s'il y a consensus sur la plupart des points clés de l'accord, sur un point, la frontière nord-irlandaise, il y reste des préoccupations et des désaccords profonds. En conséquence, si on procède au vote, l'accord serait très largement rejeté. Nous allons donc reporter le vote prévu pour demain et ainsi éviter de diviser davantage cette chambre.
Theresa May bataillant face à une chambre récalcitrante pour imposer le Brexit. L'Angleterre voudrait se diriger seule vers l'avenir, loin de cette Europe à laquelle pourtant elle était si attachée. Je vous propose de revenir à un moment où l'Angleterre et le continent n'étaient pas si éloignés. Un moment où un prince, Jean Santerre, régnait des deux côtés de la Manche. Jean Santerre, c'est ce personnage dont nous avons une vision absolument négative à travers la littérature, avec Walter Scott par exemple dans Ivan Noé, ou à travers le cinéma qui nous présente un Robin des Bois héroïque et un roi à la fois veule et traître. Eh bien, on va revenir sur cette légende noire et voir qui était vraiment Jean Santerre, le prendre à un moment justement où il peut sembler le plus démuni, à un moment en 1214-1215 où il va pourtant mettre au point avec les grands barons un des textes fondateurs de l'ordre juridique britannique. Jean Santerre, à la fois dominé et à la fois inscrit dans l'avenir, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je vous emmène au cœur de l'histoire. Notre histoire commence le 15 février 1214. Nous sommes à La Rochelle et accoste un de ces navires médiévaux, une de ces grosses coquilles de noix avec un mât planté, une grand voile. En du moins, c'est comme ça que je me l'imaginais. À son bord se trouvent Jean Santerre et sa suite. Si Jean débarque en 1214 en France, c'est qu'il a un objectif. Il voudrait désormais réduire son adversaire, notre souverain, Philippe Auguste, et réussir à reprendre des terres qui, depuis une dizaine d'années, lui échappent, en particulier la Normandie. Jean est donc un souverain qui règne à la fois sur le royaume d'Angleterre et sur un vaste empire continental constitué pratiquement de tout l'ouest de la France, ce qu'on appelle l'empire des Plantagenets. Et s'il se frotte les mains en débarquant, c'est parce qu'il a imaginé toute une stratégie pour réussir à arracher aux mains des Français ces terres qui lui reviennent. Mais qui est ce roi Jean Santerre qui arrive en France ? Jean n'est pas n'importe qui. Il est le fils d'un couple qui avait défrayé la chronique en son temps. D'un côté, Henri II Plantagenet, le roi d'Angleterre, et de l'autre, Aliénor, duchesse d'Aquitaine, qui avait été aussi mariée à un roi de France, mais avait choisi depuis d'unir ses terres avec la couronne britannique. Le couple avait eu 5 enfants. Jean était le plus jeune des frères. Chacun d'entre eux avait essayé de prendre le pouvoir à son père, mais finalement c'était Richard Cœur de Lion, qui en avait hérité et qui, après quelques années de règne, s'était éteint en 1199. Et depuis, Jean s'était hissé sur le trône. Si on l'appelle Santerre, c'est parce que son père s'était amusé à l'appeler ainsi, à le surnommer ainsi, pour une raison simple. Chacun de ses frères aînés avait obtenu un territoire pendant le règne d'Henri II, tandis qu'il ne restait pas vraiment de couronne, de titre à attribuer aux petits gens, si bien que, pour plaisanter, Henri II l'avait appelé Lackland, celui qui n'avait pas de terre. Et donc, en 1214, ce doit être l'année de la grande reconquête. Il va attaquer les terres de Philippe Auguste par le sud. Et dans le même temps, ses alliés vont attaquer Philippe Auguste par le nord. Alors qui sont ses alliés? Deux personnalités sont à retenir. Il y a d'abord Othon IV, l'empereur germanique. Et puis, autour de lui, on retrouve de grands comtes, le comte de Brabant, le comte de Boulogne et bien sûr, le comte de Flandre. L'idée, c'est qu'ainsi, on va pouvoir prendre en étau le royaume de France. On pourrait dire que, dans un sens, la campagne commence par se dérouler pas trop mal. Jean réussit à prendre quelques châteaux, à s'avancer dans le Poitou. Il reçoit les hommages et la fidélité de plusieurs des chevaliers français et des barons et progresse ainsi vers le nord de la France. Mais au même moment, Othon IV commence à s'avancer avec ses troupes vers le cœur du royaume de France. Philippe Auguste ne peut pas le laisser faire. Lui aussi a levé son banc, c'est-à-dire qu'il a fait appel à tous les chevaliers de France. On va donc retrouver face à face deux armées, l'une un peu plus hétéroclite, l'autre plus cohérente. Celle de Philippe Auguste sera, au mois de juillet 1214, ce fameux dimanche de Bouvines. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Nous garderons cela pour une prochaine de nos histoires. Mais aujourd'hui, ce que nous devons juste dire, c'est qu'Othon IV et ses alliés sont complètement défaits. Bouvines est une grande victoire française. C'est d'ailleurs là qu'en partie Philippe va trouver son nom d'Auguste, puisque c'est cette victoire qui va faire de lui l'un des plus grands souverains de la dynastie capétienne, un de ceux qui a solidifié et accru le royaume de France. Mais pour Jean, c'est une catastrophe. Face à lui s'avance désormais le fils de Philippe Auguste, Louis, que l'on surnomme déjà à cette époque Louis VIII, car il est l'héritier potentiel de la couronne de France. Et Louis s'avance avec une troupe de pas moins de 800 chevaliers armés. En réalité, cette force est inférieure à celle de Jean. Et pourtant, la peur va gagner son camp et les barons français vont refuser de marcher contre l'héritier de la couronne de France, si bien que il se retrouve obligé, le malheureux Jean, de prendre la fuite. À nouveau, le voici contraint de prendre un bateau, de traverser la Manche, pour un voyage dont il ignore qu'il sera le dernier à partir du continent. Et c'est ainsi que, le 13 octobre 1214, son bateau débarque en Angleterre. Une question se pose, quel va être l'accueil réservé à ce roi qui a été tenu en échec ? L'expédition, catastrophique sur le plan militaire, est aussi un échec économique. Il n'y a pas de butin, il n'y aura donc pas de remboursement des sommes avancées et il n'y aura donc pas de richesse pour les Britanniques. À partir de là, un certain nombre de nobles britanniques décident de rentrer dans l'opposition au roi. Écoutez comment l'anonyme de Béthune, une chronique du XIIIe siècle, raconte cet épisode et la position des barons vis-à-vis du roi.
Leur plan était de demander au roi qu'il leur concède les chartes que le roi Henri, l'aïeul de son père, avait données à leurs ancêtres et que le roi Étienne avait confirmées. Et s'il ne voulait pas le faire, ils le défieraient tous ensemble et lui feraient la guerre jusqu'à ce qu'il le fasse. Puis ils firent apporter les reliques des saints. Ils jurèrent cela tous ensemble et attaquèrent le roi.
Les barons, en réalité, s'appuyaient sur un précédent. Ils voulaient retrouver l'importance que leur avait accordée une charte prise par Henri Ier en 1100. Et donc, à partir de ce précédent, ils espéraient encore améliorer leur position vis-à-vis du roi en obtenant de lui un nouveau texte. Il y a d'un côté la petite noblesse qui voudrait obtenir le respect de la coutume et en partie obtenir un peu de promotion sociale à travers le conseil du roi et les nominations. Il y a ensuite les grands du royaume qui, eux, veulent obtenir l'autonomie complète de leur fief et leur capacité, éventuellement, à en régler l'héritage sans avoir à se préoccuper des décisions royales. Et puis venait, bien évidemment, l'Église d'Angleterre, une partie du clergé, avait des revendications pour davantage d'autonomie. Voilà donc quel était le portrait des différentes revendications qui se trouvaient mêlées au moment où se terminait cette année 1214 qui avait vu tant de désastres pour Jean. Jean veut expérimenter une stratégie. Il choisit de traiter ses adversaires séparément. Il commence déjà, à la fin de l'année 1214, par trouver un accord avec les ecclésiastiques. Restent les barons. Leur mécontentement est tel, leur désir d'autonomie si grand qu'ils passent à l'offensive. Au mois de mai, ils attaquent le château de Northampton. Puis, ils envahissent Londres le 17 mai. Jean, évidemment, essaye de réagir en distribuant aux uns un fief, aux autres une terre, mais rien n'y fait. La progression de ses adversaires est trop forte. Il faut donc en arriver à une négociation si l'on ne veut pas en finir par un bain de sang. C'est ainsi que le 15 juin 1215, un champ marécageux, un terrain qui s'appelle Runimed, est choisi pour mener la négociation. Pourquoi je précise marécageux ? c'est parce que justement, comme la terre est boueuse, on pense qu'il ne pourra pas y avoir un combat trop fort entre les deux armées qui se font face. Donc, les barons retrouvent leur roi et réclament de lui un texte qui leur donne des garanties d'autonomie, de liberté et éventuellement de conseil sur la couronne d'Angleterre. C'est ce qui se passe. Et au fond, ce texte, qui est entré dans l'histoire sous le nom de Grande Charte, a effectivement quelques caractéristiques fondamentales pour l'avenir. D'abord, il maintient et il garantit les intérêts de l'Église. On le voit, c'est bien un texte médiéval. Puis, il s'attaque aux intérêts des barons en limitant les capacités d'ingérence de la justice royale. Il s'agit en fait de limiter tout simplement le pouvoir du roi. Et puis viennent les articles qui aujourd'hui parlent sans doute beaucoup aux Anglais. Ce sont tous ceux qui concernent la fiscalité, les impôts, puisque là encore, il s'agit de limiter les capacités du roi à peser sur la fortune des barons. Enfin, un certain nombre d'éléments concernent ce qui était à l'époque non pas de la vie personnelle, mais de la vie publique. Le mariage notamment, la dévolution des biens, tout cela était considéré par les barons comme relevant de leur pouvoir politique et le roi ne devait plus avoir rien à y faire. Donc la Grande Charte, c'est cela. Un mélange d'éléments qui pourraient nous paraître extrêmement modernes, actuels, puisque ce sont des garanties données à des personnes, et en même temps, c'est un texte qui renvoie à un droit très ancien et qui est ancré dans les liens étroits de la féodalité. Un article en particulier manifeste cette espèce de tension entre hier et aujourd'hui. Il concerne les droits qui sont réservés à tous les hommes libres de ne pas être emprisonnés ou de souffrir de privations sans qu'il y ait eu au préalable un jugement et un jugement qui soit fait avec des témoins crédibles. Écoutez cet article 39 de la Grande Charte, celui qui au fond est peut-être à la base de tout le droit des personnes modernes.
Qu'aucun homme libre ne soit ainsi emprisonné, ni dépossédé de ses biens, ni déclaré hors la loi, ni exilé, ni détruit de quelque autre manière. Et nous ne procéderons pas contre lui, et nous ne donnerons pas d'ordre contre lui, si ce n'est par le jugement légal de ses pairs ou selon la loi de la terre.
La Grande Charte devait ainsi sceller la paix entre le roi et ses barons. Mais en réalité, si Jean a cédé, c'est parce qu'il était sous pression. C'est parce que la force militaire était contre lui. Et dans l'esprit du temps, le texte n'est pas considéré comme tout à fait légitime. On y voit même, au fond, quelque chose comme une expérience du monde à l'envers. Le chef aurait cédé au sous-chef. Il y a quelque chose là-dedans qui heurte l'ordre social. Écoutez d'ailleurs comment une chronique, la chronique de l'abbaye cistercienne de Melrose, raconte l'accord entre le roi et ses barons.
L'Angleterre a adopté un ordre à l'envers. On dit en un mot que c'est étonnant. Qui a entendu une chose pareille? En effet, le corps a voulu l'emporter sur la tête, le peuple a cherché à gouverner son roi.
Le peuple a cherché à gouverner son roi, et cela a quelque chose d'intolérable dans la pensée médiévale, car la hiérarchie sociale, malgré tout, doit être respectée. Et c'est dans ces mots, dans ce heurt, que va émerger un nouveau spectre, celui de la guerre civile. Jean, en habile souverain, ne s'en laisse pas compter. Il a une stratégie en tête. Et s'il envoyait au pape la Grande Charte pour en demander l'avis, serait-elle conforme, effectivement, à l'esprit de l'époque? Innocent III comprend bien la manœuvre et il annule la Grande Charte en tant que texte qui, au fond, ne respecterait pas les normes juridiques de la papauté. Si bien qu'à partir de cette annulation religieuse, Jean va pouvoir considérer le texte comme nul et non avenu. Cette prise de position, évidemment, ne peut pas passer inaperçue pour les barons et très rapidement, ils commencent à reprendre leurs manœuvres. Certains font des alliances, d'autres renforcent leurs châteaux et donc, rapidement, le conflit va reprendre. La guerre se déroule suivant un schéma assez simple. L'objectif de Jean est de reprendre un à un les châteaux qui lui échappent. À l'automne, environ 150 d'entre eux sont désormais sous la coupe de Jean, soi-disant sans terre. Mais en fait, Jean a une fois de plus sous-estimé ses adversaires. Les barons anglais ont eu une idée. pourquoi ne pas faire appel à son principal ennemi? Oui, pourquoi ne pas se tourner tout simplement vers la France? Et il décide de contacter Louis VIII, qui a des droits à la couronne d'Angleterre, puisque Philippe Auguste avait épousé Blanche de Castille, qui était la nièce de Jean, et donc à ce titre, il pourrait prétendre au trône d'Angleterre. Voilà la solution toute trouvée pour éliminer Jean. Et d'ailleurs, personne n'est dupe à l'époque. Une des chroniques de ce temps, l'anonyme de Béthune, nous explique.
Ils lui firent dire que s'il voulait venir à eux, ils le recevraient comme roi, et ils mettraient le royaume en sa main s'il venait sans attendre. Car le roi Jean n'avait plus aucun droit sur le royaume, en raison de ses actions, et il en était privé par sa faute.
Louis a écouté les barons anglais et finalement, la perspective d'avoir une nouvelle couronne lui a plutôt plu. Il décide de prendre une force expéditionnaire et de s'attaquer à l'Angleterre. Et le 22 mai, Jean assiste impuissant au débarquement français sur les rivages du Kent. Pas moins de 1200 chevaliers sont venus ici se refaire une fortune sur le dos des Britanniques. Étrange retournement du sort. Désormais, c'est Louis qui s'avance en Angleterre et qui partout est reçu triomphalement. Le voici même maître de Londres. Désormais, tous les chevaliers britanniques se tournent vers lui. Les défections se multiplient autour de Jean. Seuls lui restent fidèles quelques personnages uniques, comme Guillaume le Maréchal, qui avait gagné déjà à cette époque le surnom de plus grand chevalier d'Europe. Quelques semaines après le débarquement, donc, Jean est obligé de se replier dans l'ouest du royaume. Les rebelles sont pratiquement maîtres de toute l'Angleterre orientale, à l'exception de quelques châteaux comme Windsor ou Douvres. Les Écossais aussi en profitent pour entrer dans la danse et pour attaquer Jean par le nord. Commencent alors les véritables opérations de combat entre les hommes de Jean et ceux de Louis. Quelques châteaux importants continuent de résister et infligent des défaites aux rebelles. Au mois de septembre, Jean repart à l'offensive en direction de l'Angleterre orientale afin de couper le mouvement de ses adversaires en séparant ceux du nord et ceux du sud. Malheureusement, sa santé se dégrade brusquement le 10 octobre. Le chroniqueur de Saint-Alban, un moine, raconte cette fin de manière tragique.
Le roi Jean se dirigea vers la ville neuve qu'on appelle Lynn. Mais sa suite, qui voyageait par le nord, perdit de manière inopinée tous ses bagages dans les eaux de l'estuaire de la Wash, ses charrois, ses affaires avec son trésor, ses vases précieux et toutes les choses dont il aimait prendre soin. La terre s'ouvrit au milieu des eaux du feu, engouffrant tout dans l'abysse, absorbant hommes et chevaux, et le seul qui put réchapper vint aussitôt annoncer la nouvelle au roi. La nuit suivante, le roi avec son armée se rendit dans l'abbaye de Swineshead. Là, en pensant à toutes les choses qui avaient été dévorées par le fleuve, il fut pris d'une grande tristesse, qui dégénéra en une fièvre aiguë, et il tomba gravement malade. Le lendemain, à l'aube, trop faible pour monter à cheval, il fut placé sur une litière et transporté jusqu'au château de Newark. Dans ce lieu, alors qu'il était mourant, il reçut de l'abbé Crowston la confession et l'Eucharistie.
Jean meurt dans la nuit du 18 au 19 octobre 1216, sans avoir complètement réglé sa succession. C'est pourtant un de ses enfants, Henri, qui va lui succéder grâce à l'intercession de ce grand chevalier, Guillaume le Maréchal, qui l'adoube, le fait chevalier et donc lui permet d'accéder au trône. Avec la succession d'Henri, la dynastie des Plantagenets est assurée. Mais pour Jean, la situation est tout autre. À peine est-il mort que commence déjà sa légende noire. C'est un chroniqueur, Roger de Vendover, qui déjà prétendait qu'une épitaphe était prévue pour sa tombe et écoutez combien elle est terrible.
Dans ce sarcophage est couché le corps d'un roi. Sa mort a fait cesser de grandes querelles dans le monde et sa vie n'a été qu'un long enchaînement d'actions déshonorantes. On doit craindre que ce qu'il a fait de mal ne l'ait suivi après la mort.
Vous avez entendu ? Action déshonorante. Alors on lui reprochait évidemment plusieurs choses. On lui reprochait d'avoir éventuellement assassiné un des héritiers potentiels à la couronne d'Angleterre, Arthur, son petit-neveu. Mais rien n'est sûr. On lui reprochait aussi d'avoir été excommunié. Mais surtout, ce qu'on lui a reproché, c'est peut-être d'avoir cédé en son temps au grand baron, alors même que le texte de 1215, la Grande Charte, servira au moment de la pétition du droit en 1628, servira à la fin du XVIIe siècle aux Anglais pour fonder les prémices de leur démocratie parlementaire. Et même ce fameux article 39 que nous aurons lu servira de prémisse à l'habeas corpus. En somme, on pourrait dire qu'à côté de la légende noire de Jean Sans Terre, se construit une légende positive, celle d'un roi qui avait su entrevoir de quoi écrire une nouvelle histoire pour l'Angleterre. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Ce podcast est une création Europe 1 Studio, présentée par Fabrice d'Almeida. Il a été préparé par Simon Maisonneuve, réalisé par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.